Chapitre 6. Pas plus extraordinaire qu'amusant. Depuis quelques jours, j'avais remarqué qu'Aminé était plus triste qu'à l'ordinaire. Sa maison, la nuit, était fermée et le jour, elle ne voyait qu'Abdallah Latif. On lui avait écrit beaucoup de lettres et toutes l'avaient chagrinée. Je me perdais en réflexion pour deviner ce qu'elle pouvait avoir et ne pouvant le pénétrer, je fus assez imbécile pour croire que les remords dont elle était agitée causaient seul le chagrin qu'elle paraissait avoir. Quoique la connaissance que j'avais de son caractère dût m'interdire cette idée, la difficulté de pénétrer la cause de son inquiétude me la fit former. Je ne fus pas longtemps à voir que je m'étais trompé sur tout ce que j'avais imaginé. Aminé, l'air embarrassé, pensif, sombre, était un matin à sa toilette. Abdallah Latif entra. Elle rougit à sa vue, elle n'était pas accoutumée à le voir le matin, et cette visite inopinée lui déplut. Confuse et timide, à peine osa-t-elle lever les yeux sur lui. À la mine renfrognée d'Abdallah Latif, au regard terrible que de temps en temps il lançait sur elle, il n'était pas difficile de juger qu'il était tourmenté d'une idée fâcheuse à laquelle, vraisemblablement, elle avait donné lieu. Aminé, sans doute, savait ce que c'était, car elle n'osa jamais le lui demander. Il garda quelque temps le silence. « Vous êtes jolie, » lui dit-il enfin avec une fureur ironique. « Vous êtes jolie. Oui, oh, très fidèle. Oh, parbleu, ma reine, parbleu, on saura vous apprendre à être sage et vous mettre en lieu où vous serez forcé de l'être, du moins quelque temps. » « Quel est donc ce discours, monsieur ?» lui répondit Aminé d'un air de hauteur. « Est-ce à une personne comme moi qu'il peut jamais s'adresser ? Mesurez un peu vos paroles, je vous prie. » L'insolence d'Aminé dans la situation présente parut si singulière à Abdallah Latif que d'abord elle le confondit, mais enfin, la fureur prenant le dessus, il l'accabla de toutes les injures et de tout le mépris qu'il croyait lui devoir. Aminé voulait avoir entré en justification, mais Abdallah Latif, qui sans doute avait des témoins convaincants de ce dont il l'accusait, lui ordonna brusquement de se taire. Après avoir dit toutes les impertinences que sa fureur et sa fatuité lui dictaient tour à tour, il s'empara généralement de tout ce qu'il avait donné à Aminé. Elle s'était attendue à être quittée, et elle s'en consolait, en jetant de temps en temps les yeux sur les diamants et les autres choses qu'elle croyait qu'il lui resterait. Mais quand elle vit l'impitoyable Abdallah Latif se mettre en devoir de tout reprendre, elle poussa les cris les plus perçants et les plus douloureux. Sa mère alors entra, se jeta mille fois aux pieds d'Abdallah Latif, et crut l'apaiser beaucoup en lui avouant que c'était un maudit bronze qui était cause de tout ce qui arrivait. Loin que ce qu'on disait du bronze parût attendrir Abdallah Latif, il sembla le déterminer à user de toute la rigueur possible. « Hélas !» ajoutait tristement la mère d'Aminé, « nous sommes bien punis de nous être fiés à l'infidèle. Ma fille sait ce que je pensais et ce que je lui ai toujours dit, que cela ne pouvait que lui porter malheur. » Pendant ces lamentations, Abdallah Latif, ayant à la main un état de tout ce qu'il avait donné à Aminé, se faisait tout restituer par ordre. Lorsque cela fut fait, « À l'égard de l'argent que vous ai donné, » dit-il à Aminé d'un air grave, « je vous le laisse. Il n'a pas tenu à moi, petite reine, que vous n'ayez été plus heureuse. Cette mortification vous rendra sans doute plus prudente, je le désire sincèrement. Allez, ajouta-t-il, je n'ai plus besoin de vous ici. Rendez grâce au ciel de ce que je ne porte pas plus loin ma colère. En achevant ces paroles, il ordonna à ses esclaves de les faire sortir, n'étant pas plus ému des injures atroces qu'alors elles vomissaient contre lui, qu'il ne l'avait été des larmes qu'il leur avait vues répandre. La curiosité de voir l'usage qu'Aminé ferait de son humiliation me fit résoudre, malgré le dégoût que ses mœurs me causaient, à la suivre dans ce réduit obscur d'où Abdalatif l'avait tirée et où elle retourna cacher sa honte et la douleur de n'avoir pas su le ruiner. Et ce fut dans ce triste lieu que je fus témoin de ses regards et de ses imprécations de la vertueuse mère. Les débris de leur fortune, qui étaient encore considérables, les consolèrent enfin de ce qu'elles avaient perdu. « Eh bien, ma fille, disait un jour la mère d'Aminé, est-ce donc un si grand malheur que ce qui vous est arrivé? Je conviens que ce monstre que vous aviez était la libéralité même, mais il est donc le seul à qui vous puissiez plaindre. D'ailleurs, quand vous ne me retrouviez pas un aussi riche, croiriez-vous pour cela être malheureuse? Non, ma fille, où l'espèce manque, il faut se dédommager par le nombre. Si 4 ne suffisent pas pour le remplacer, ben, prenez-en 10, plus même s'il le faut. Or, vous me direz peut-être que cela est sujet à des accidents. Oh, cela est vrai, mais quand on ne se met au-dessus de rien, que l'on craint tout, on reste dans l'infortune et dans l'obscurité. Quelque envie qu'Aminé eut de mettre à profit ses sages conseils, l'abandonnement où elle était ne lui permet pas de s'en servir aussitôt qu'elle l'aurait voulu. Son aventure avec Abdalatif lui avait si bien donné dans Angra la réputation d'une personne peu sûre dans le commerce que, hors le fidèle Massoud, de qui la tendresse était à l'épreuve de tout, je ne vis chez elle pendant longtemps que quelques-unes de ses compagnes qui venait la voir plutôt sans doute pour jouir de son malheur que pour l'en consoler. Le temps qui efface tout effaça enfin la mauvaise opinion qu'on avait d'Aminé. On la crut changée, on imagina que les réflexions qu'on lui avait laissé le temps de faire l'auraient guérie de la fureur d'être infidèle. Les amants revinrent. Un seigneur persan qui arriva dans ce temps à Agra et qui n'en savait que médiocrement les anecdotes, vit Aminé, la trouva jolie, et s'en entêta d'autant plus qu'un de ces hommes obligeants qui ne s'occupe que du noble soin de procurer des plaisirs aux autres, l'assura que s'il avait le bonheur de plaire à Aminé, il devrait lui en savoir d'autant plus de gré que ce serait la première faiblesse qu'elle aurait à se reprocher. Tout autre aurait cru la chose impossible. Le persan ne la trouva qu'extraordinaire. Cette nouveauté le piqua, et à l'aide de l'irréprochable témoin de la vertu d'Aminé, il acheta au plus haut prix des faveurs qui, dans Agra, commençaient à être taxées au plus bas, mais n'étaient pourtant pas encore aussi méprisées qu'elles auraient dû l'être. Cette triste maison qu'Aminé habitait fut encore une fois quittée pour un palais superbe où brillait tout le faste des Indes. Je ne sais si Aminé usa sagement de sa nouvelle fortune. Mon âme, rebutée d'étudier la sienne, alla chercher des objets plus dignes de s'occuper, dans le fond peut-être aussi méprisables, mais qui, plus ornés, la révoltait et l'amusait davantage. Alors je m'envolai dans une maison, qu'à sa magnificence et au goût qui régnait de toutes parts, je reconnus pour une de celles où je me plaisais à demeurer, où l'on trouve toujours le plaisir et la galanterie, et où le vice même, déguisé sous l'apparence de l'amour, embelli de toute la délicatesse et de toute l'élégance possible, ne s'offre jamais aux yeux que sous les formes les plus séduisantes. La maîtresse de ce palais était charmante, et à la tendresse qu'elle avait dans les yeux, autant qu'à sa beauté, je jugeais que mon âme y trouverait des amusements. Je restai quelque temps dans son sofa, sans qu'elle daignât seulement s'y asseoir. Cependant, elle aimait et elle était aimée. Poursuivie par son amant, persécutée par elle-même, il n'y avait pas d'apparence que je lui fusse toujours aussi indifférent qu'elle semblait se le promettre. Quand j'entrais chez elle, il avait déjà obtenu la permission de lui parler de son amour, mais quoiqu'il fût aimable et pressant, que même il eût déjà persuadé, il était encore bien loin de vaincre. Fénimo, c'est ainsi qu'elle s'appelait, renonçait avec plaisir à sa vertu. Et Zulima, trop respectueux pour être entreprenant, attendait, du temps et des soins qu'elle prit pour lui, autant d'amour qu'il en ressentait pour elle. Mieux infortuné que lui des dispositions de Fénim, je ne concevais pas qu'il pût connaître aussi peu son bonheur. Toutes les fois qu'il la trouvait seule, et sans s'en apercevoir, il lui en donnait mille occasions, l'émotion la plus tendre et la plus marquée s'emparait d'elle involontairement. Si, dans le cours d'un entretien long et animé, il rêvait à Zulima de lui baiser la main ou de se jeter à ses genoux, Fénim s'effrayait, mais ne se fâchait pas. C'était même si tendrement qu'elle se plaignait de ses entreprises. « Et cependant, interrompit le sultan, il ne les continuait pas. »« Non, assurément, sire, répondit Amanzai. Plus il était amoureux, plus il était bête, dit le sultan. Oh, je le vois bien. » Mais l'amour n'est jamais plus timide, reprit Amanzai, que quand. Oui, timide, interrompit encore le sultan. Voilà un beau conte. Est-ce qu'il ne voyait pas qu'il impatientait cette dame? À la place de cette femme-là, j'aurais renvoyé pour jamais, moi qui vous parle. Mais il n'est pas douteux, reprit Amanzai, qu'avec une coquette, Sulman eût été perdu. Mais Fénim, qui réellement désirait de n'être pas vaincu, tenait compte à son amant de sa timidité. D'ailleurs, plus il ménageait les scrupules de Fénim, plus il s'assurait la victoire. À un moment donné, par le caprice, s'il n'est pas saisi, il ne revient peut-être jamais, mais quand c'est l'amour qui le donne, il me semble que moins on le saisit et plus il s'empresse à le rendre. Un jour, par exemple, il entra chez Fénim. Il y avait plus d'une heure que, livrée à sa tendresse, elle ne s'occupait que de lui. Elle avait commencé par le désirer vivement, et son imagination s'échauffant par degrés, elle s'abandonna voluptueusement à son désordre, et il était au plus haut point lorsque Zulima se présenta à ses yeux. Son trouble augmenta. Elle acheva de rougir en le voyant. Ah, s'il eût deviné ce qui faisait alors rougir Fénim, s'il eût osé même la presser. Mais il se croyait fort mal avec elle de quelque liberté fort innocente que la veille il avait voulu prendre. Il employa à lui en demander pardon, le temps où il ne se serait offensé de rien. Ah, le butor ! S'écria le sultan. Il n'est pas croyable que l'on soit si bête. Mais il ne faut cependant pas que cela vous étonne, sire, repartit Amanzeï. Tout le temps que j'ai été sofa, j'ai vu manquer plus de moments que j'en ai vu saisir. Chapitre 7, où l'on trouvera beaucoup à reprendre. Un soir, en quittant Fénim, Zulma lui demanda quand il pourrait la revoir. Quoiqu'elle craignît beaucoup sa présence, elle ne savait pas s'en passer. Ainsi, après avoir rêvé quelque temps, elle lui répondit qu'il pourrait la voir le lendemain. Fénim, qui sentait bien tout le danger qu'il y avait pour elle à être seule avec lui, avait pensé avoir du monde, et pourtant fit dire le jour du rendez-vous qu'il n'y était pour personne que pour Zulma. Il lui semblait que, quand il trouvait quelqu'un chez elle, moins il avait la liberté de lui parler de son amour, plus par mille choses qu'il imaginait, il tâchait de lui faire comprendre qu'il en était permettellement occupé, et l'on est si clairvoyant dans le monde. Elle entendait si bien Zulma. La méchanceté des spectateurs ne pouvait-elle pas leur donner cette pénétration qu'elle ne devait qu'à l'amour ? Zulma était moins dangereux pour elle quand ils étaient seuls, puisqu'alors ils savaient être respectueux, et que devant des témoins, ils n'étaient pas assez prudents. Donc il ne fallait jamais le voir en compagnie que le moins qu'il serait possible. D'ailleurs, il était si triste quand il ne pouvait pas lui parler. N'y avait-il pas trop d'inhumanité à le priver d'un plaisir que jusqu'alors elle avait trouvé si peu de risques à lui accorder ? Toutes ces raisons avaient déterminé Fénim, ou du moins elle le croyait, et elle fondait toujours, soit sur les usages, soit sur des choses qui lui paraissaient aussi sensées, ce que l'amour seul lui faisait faire en faveur de Zulma. Ce jour même, elle avait été extrêmement tentée de faire son bonheur. Elle s'était dit tout ce que peut se dire une femme qui veut se vaincre elle-même sur ce qu'elle oppose à son amour. Elle s'était exagérée la constance et les soins de Zulma, ce désir toujours si pressant qu'il avait de lui plaire. Elle se souvenait même avec plaisir qu'il avait toujours mieux aimé être trompé qu'infidèle. Zulma, d'ailleurs, était jeune, spirituelle, bien faite, toutes choses sur lesquelles elle ne croyait pas appuyer, mais qui n'en étaient pas moins celles qui l'avaient le plus touchée. « Mais alors, qui diable arrêtait donc ?» demanda le sultan. « Cette femme-là m'excède. »«
8 ans de vertu, » répondit Amanzeï. « 8 ans dont une seule faiblesse allait lui enlever tout le mérite. »
« En effet, » s'écria le sultan, « voilà ce qui s'appelle une perte. »
Zulma entra, reprit Amanzeï, et Fénim, quoiqu'il vînt plus tôt qu'elle ne l'attendait, ne laissa pas de lui dire qu'il venait bien tard.
« Que je suis heureux, Fénim, lui dit-il tendrement, que vous me trouviez coupable. » Ce Fénim ne s'aperçut que dans cet instant de la force de ce qu'elle venait de lui dire. Elle voulut s'excuser et ne sut que répondre. Zulma sourit de l'embarras où il la voyait, et elle rougit de l'avoir vu sourire. Il se jeta à ses genoux et lui baisa la main avec une ardeur extrême. Elle fit un mouvement pour la retirer, mais comme il ne faisait pas des efforts pour la retenir, elle la lui rendit.
Zulma, cependant, lui disait les choses les plus tendres. Elle ne lui répondait pas, mais elle l'écoutait avec une attention, une avidité, qu'elle se serait sûrement reprochée si elle avait pu démêler ses mouvements. Sa gorge était un peu découverte. Elle s'aperçut qu'il y portait ses yeux et voulut rapprocher sa robe.
« Oh, cruel !» lui dit Zulma.
Et Fénim, malgré le désordre qui s'emparait d'elle, s'aperçut de celui de son amant, et craignant également l'émotion de Zulma et la sienne, elle se leva brusquement.
Il fit quelques efforts pour la retenir, et n'ayant plus la force de lui parler, il tâcha, en arrosant sa main des pleurs qu'il répandait, de lui faire comprendre combien il était touché de la cruelle résolution qu'elle prenait. Tant de respect achevait d'y voir m'émouvoir Phénime, mais l'amour n'ayant pas encore absolument vaincu, elle triompha et de ses propres désirs et de ceux de son amant, plus dangereux peut-être pour elle que les siens mêmes. Aussitôt qu'elle se fut débarrassée des bras de Zulma, elle lui fit signe de se relever et il obéit. Ils se regardèrent quelque temps en gardant le silence. Phénime enfin lui dit qu'elle voulait jouer. Quelque déplacée que cette envie parut à Zulma, il ne savait pas résister aux volontés de Phénime, et il prépara tout lui-même avec autant de vivacité que si c'était lui qui eût désiré le djep. Cette nouvelle preuve de sa soumission toucha extrêmement Phénime, et je la vis prête à lui demander pardon d'une fantaisie qu'alors elle trouvait ridicule. Le repentir de Phénime ne dura pas autant qu'il aurait fallu pour le bonheur de Zulma, et plus elle se sentit émue, plus elle crut devoir lui cacher son trouble. Elle se mit donc au jeu, mais il lui inspira un ennui qui lui fit bientôt connaître que ce qu'elle avait imaginé contre Zulma était pour elle d'une bien faible ressource. Elle ne voulut pourtant pas croire d'abord que les dispositions où elle était pour lui causassent cette langueur dans laquelle elle se sentait, et l'attribuant uniquement au jeu qu'elle avait choisi, elle pressa son amant d'en prendre un autre. Il obéit en soupirant, et elle n'en fut pas moins tourmentée. Elle croyait regarder son jeu et ne s'occupait que de Zulma. L'air pénétré qu'elle lui voyait, les profonds soupirs qu'il poussait, ses larmes qu'elle voyait prêtes à couler et que son respect pour elle semblait seul retenir encore, achevèrent d'attendrir Phénime. Soit qu'enfin elle fût confuse de l'état où elle se trouvait, soit qu'elle ne put plus soutenir les regards de Zulma, elle appuya sa tête sur sa main. Zulma ne la vit pas plutôt dans cette attitude qu'il alla se jeter à ses pieds. Ou Phénime, trop occupée, ne le vit pas, ou elle ne voulut pas l'en empêcher. Il profita de ce moment de faiblesse pour lui baiser la main qu'elle avait libre, et il la baisa avec plus de transport qu'un amant ordinaire n'en éprouve en jouissant de tout ce qui peut le rendre heureux. Comblé d'une faveur que, dans les termes mêmes où ils en étaient ensemble, il n'osait pas encore espérer, il voulut chercher dans les yeux de Phénime quel devait être son destin. Elle avait toujours la tête appuyée sur sa main. Il s'en empara doucement, et Phénime, en se découvrant le visage, le laissa voir couvert de ses larmes. Ce spectacle émut Zulma au point d'en verser lui-même. « Ah, Phénime ! » s'écria-t-il en poussant un profond soupir. « Ah, Zulma ! » répondit-elle tendrement. En achevant ces paroles, ils se regardèrent, mais avec cette tendresse, ce feu, cette volupté, cet égarement que l'amour seul et l'amour le plus vrai peut faire sentir. Zulma, enfin, d'une voix entrecoupée par les soupirs, reprit la parole. « Phénime ! » dit-il avec transport. « Ah, s'il est vrai qu'enfin mon amour vous touche et que vous craignez encore de me le dire, laissez du moins à ces yeux charmants, à ces yeux que j'adore, la liberté de s'expliquer en ma faveur. « Non, Zulma, répondit-elle, je vous aime et je ne me pardonnerai pas de vous retrancher rien d'un triomphe que vous avez si bien mérité. Je vous aime, Zulma. Ma bouche, mon cœur, mes yeux, tout doit vous le dire et tout vous le dit. Zulma, mon cher Zulma,
Je ne suis heureuse que depuis que je peux vous apprendre tout ce que je sens pour vous. »
À des paroles si douces et si peu attendues, Zulma pensa mourir de joie. Dans quelque égarement qu'elle le plongea, il n'oublia pas que Fénim pouvait le rendre plus heureux. Quoiqu'il n'ignora pas que l'aveu qu'elle lui faisait l'autorisait à mille choses qu'à peine jusqu'à ce moment il avait osé imaginer, le respect qu'il avait pour elle l'emportant sur ses désirs, il voulut attendre qu'elle achevât de décider de son sort. Fénim connaissait trop Zulma pour se méprendre au motif qui suspendait ses empressements. Elle le regarda encore avec une extrême tendresse, et, cédant enfin au doux mouvement dont elle était agitée, elle se précipita sur lui avec une ardeur que les termes les plus forts et l'imagination la plus ardente ne pourraient jamais bien peindre. Que de vérité, que de sentiments dans leur transport. Non, jamais spectacle plus attendrissant ne s'était offert à mes yeux. Tous deux, enivrés, semblaient avoir perdu tout usage de leurs sens. Ce n'était point ces mouvements momentanés que donne le désir. C'était ce vrai délire, cette douce fureur de l'amour toujours cherchée et si rarement sentie. Oh, Dieu, Dieu! Disait de temps en temps Zulma, sans pouvoir en dire davantage. Et Fénim, de son côté, abandonné à tout son trouble, serrait tendrement Zulma dans ses bras, s'en arrachait pour le regarder, s'y rejetait, le regardait encore. Zulma, lui disait-elle avec transport, ah, Zulma, que j'ai connu tard le bonheur. Ces paroles étaient suivies de ce silence délicieux auquel l'âme se plaît à se livrer lorsque les expressions manquent aux sentiments qui la pénètrent. Zulma, cependant, avait bien des choses encore à désirer, et Fénim, à qui son ardeur les rendait en ce moment presque aussi nécessaires qu'à lui-même, loin de vouloir rien opposer à ses désirs, s'y livra aveuglément. Il semblait même qu'elle fît encore plus pour lui qu'il ne faisait pour elle. Plus elle s'était défendue contre son amour, plus elle croyait devoir lui prouver combien sa résistance lui avait coûté et lui faire une sorte de satisfaction sur les tourments qu'il lui avait fait éprouver si longtemps. Elle aurait rougi de s'armer de cette fausse décence qui si souvent gêne et corrompt les plaisirs, et qui, paraissant mettre sans cesse le repentir à côté de l'amour, laisse au milieu du bonheur même un bonheur encore plus doux à désirer. La tendre, la sincère Fénim se serait crue coupable envers Zulma si elle lui avait dérobé quelque chose de l'ardeur extrême qui lui inspirait. Elle volait avec empressement au-devant de ses caresses, et comme quelques moments auparavant elle s'estimait de lui résister, elle mettait alors toute sa gloire à le bien convaincre de sa tendresse. Mais il me serait impossible de me rappeler les discours des deux amants, qui, enivrés d'eux-mêmes, s'interrogeaient et ne se donnaient jamais le temps de se répondre, et dont les idées, n'ayant alors entre elles aucune liaison, ne peignaient que le désordre de leur âme et ne devaient pas avoir pour un tiers le même charme que pour eux. J'étais surpris et de la vivacité de leur passion et des ressources qu'ils y trouvaient. Ils ne se séparèrent que fort tard, et Zulma fut à peine sortie, que Fénim, qui lui avait consacré tous ses moments, se mit à lui écrire. Zulma revint le lendemain de fort bonne heure, toujours plus amoureux, toujours plus tendrement aimé, jouir aux genoux ou dans les bras de Fénim des plus délicieux moments. Malgré le penchant qui me portait à changer souvent de demeure, je ne pus résister au désir de savoir si Zulma et Fénim s'aimeraient longtemps. Cette curiosité m'arrêta chez elles près d'un an. Mais voyant enfin que leur amour, loin de diminuer, semblait tous les jours prendre de nouvelles forces,
et qu'ils avaient même joint à toutes les délicatesses, à toute la vivacité de la passion la plus ardente, la confiance et l'égalité de l'amitié la plus tendre, j'allais chercher ailleurs ma délivrance et de nouveaux plaisirs. Chapitre 8, sans titre. Là de la vie errante que je menais, convaincu que le sentiment dont on veut sans cesse paraître rempli est cependant ce que l'on éprouve le moins, je commençais à m'ennuyer de ma destinée et à désirer de trouver cette occasion qui devait terminer le supplice auquel j'étais condamné. « Quelle mœurs !» m'écriai-je quelquefois. « Non, Brahma, qui les connaît, m'a flatté d'une espérance vaine. Il n'a pas cru qu'avec ce goût effréné des plaisirs qui règne dans Agra, et ce mépris des principes qui est si généralement répandu, je puisse jamais trouver deux personnes telles qu'il les demande pour m'appeler à une vie. » Tout entier à ces chagrinantes réflexions, je me transportais dans une maison où tout avait l'air paisible. Une fille, âgée de près de 40 ans, y logeait seule. Quoiqu'elle fût encore assez bien pour pouvoir sans ridicule se livrer à l'amour, elle était sage, fuyait les plaisirs bruyants, voyait peu de monde, et semblait même avoir moins cherché à se faire une société agréable qu'à vivre avec des gens qui, soit par leur âge, soit par la nature de leur emploi, puissent la mettre à l'abri de tout soupçon. Aussi y avait-il dans Agra peu de maisons plus tristes que la sienne. Il est aisé à un homme de résister à l'amour et tout y livre les femmes. Si ce n'est pas la tendresse qui les y porte, ce sont les sens. À défaut de ces deux mouvements qui causent tous les jours tant de désordre, elles ont la vanité qui, pour être la source de leur faiblesse, que l'on doit excuser le moins, n'en est peut-être pas moins ordinaire. Et ce qui, ajouta-t-il en soupirant en levant les yeux au ciel, est encore plus terrible pour elles, c'est le désœuvrement perpétuel dans lequel elles languissent. Cette nonchalance fatale livre l'esprit aux idées les plus dangereuses. L'imagination, naturellement vicieuse, les adopte et les étend. La passion, déjà née, en prend plus d'empire sur le cœur, ou, s'il est encore exempt de troubles, ces fantômes de volupté que l'on se plaît à se présenter le disposent à la faiblesse. « Ah, oh, Moclès !» s'écria Almaïde en rougissant, « que la vertu est difficile à pratiquer !»« Quoi, lui dit-il, vous aussi, Almaïde ?»« J'ai trop confiance en vous pour vous vouloir rien cacher, » reprit-elle. Et je vous avouerai que j'ai eu cruellement à combattre. Ce qui m'a longtemps étonné, et qu'encore aujourd'hui je ne conçois pas, c'est que ce trouble qui s'empare des sens et les confond soit indépendant de nous-mêmes. 100 fois il m'a surpris dans les occupations les plus sérieuses et qui naturellement devaient y rendre mon âme moins accessible. Quelquefois je le combattais avec assez de succès, et dans d'autres temps, moins forte contre lui, malgré moi-même, il m'asservissait, entraînait mon imagination, se soumettait toutes mes facultés. Que ces honteux mouvements subjuguent une âme qui se plaît à les nourrir et qui ne se trouve heureuse qu'autant qu'elle en est la proie, je n'en suis pas surprise. Mais pourquoi y est-on exposé quand on fait le plus grand et le plus continu de ses soins à les anéantir? Oh, ce qu'on appelle sagesse, répondit Moclès, consiste beaucoup moins à n'être pas tenté qu'à savoir triompher de la tentation. Il y aurait trop peu de mérite à être vertueux si, pour l'être, l'on n'avait pas d'obstacles à surmonter. Mais puisque nous en sommes sur ce chapitre, dites-moi de grâce, depuis que vous êtes dans cet âge où le sang coulant dans les veines avec moins d'impétuosité vous rend moins susceptible de désir, sentez-vous encore ces mouvements affreux? Ils sont beaucoup moins fréquents, répartit-elle, mais j'y suis encore sujette. Je suis aussi dans le même cas, répondit-il en soupirant. Mais nous sommes fous de parler comme nous faisons, dit Almaïde en rougissant, et cette conversation n'est pas faite pour nous.
Oh, je doute, toute réflexion faite, que nous devions beaucoup la craindre, répondit Moclès en souriant d'un air vain. Il est bon de se défier de soi-même, ce serait aussi avoir trop mauvaise opinion de nous que de nous croire si susceptibles. Je conviens que le sujet que nous traitons ramène nécessairement à de certaines idées, mais il est bien différent de le discuter dans la vue de l'éclairer ou dans celle de se séduire. Et nous pouvons, je crois, sans nous tromper, nous répondre de nos motifs et nous reposer sur eux de notre tranquillité. Il ne faut pas, d'ailleurs, que vous croyiez que ces sortes d'objets, si dangereux pour les gens qui vivent dans le désordre, puissent faire la même impression sur vous. Par eux-mêmes, ils ne sont rien. Les personnes de la vertu la plus pure sont quelquefois forcées de s'y arrêter sans que la discussion la plus exacte de ces matières prenne sur l'innocence de leurs mœurs. Tout est mal et corruption pour les cœurs corrompus, comme les choses qui paraissent les plus contraires à la sagesse, sont sans pouvoir sur ceux qui ne cherchent point à s'y complaire.
Cela n'est pas douteux, puisque vous le croyez, répondit-elle, et je n'ai garde de me faire des scrupules quand il vous paraît que je n'en dois pas avoir.
Vous ne devineriez jamais, lui dit-il, la curiosité qui m'occupe. Oh, je n'ose vous la découvrir, parce que je la crois indiscrète, et je ne puis cependant y résister. Je voudrais savoir, si jamais on ne vous a fait de proposition d'un certain genre, si jamais enfin, pour vous montrer ma curiosité tout entière, vous n'avez essuyé les transports d'aucun homme, soit volontairement, soit malgré vous.
À cette question qu'Almaïde n'avait pas prévue, elle demeura étonnée, rougie et parut rêver.
Enfin, prenant son parti, « Mais oui, répondit-elle avec embarras. Et puisque vous voulez le savoir, je vous avouerai naturellement qu'un jour, un jeune étourdi qui, car je ne veux rien vous dissimuler, malgré mon aversion pour les hommes, me paraissait assez aimable, me trouvant seul, me dit de ces galanteries que les hommes croient devoir nos devoirs quand nous ne sommes pas encore parvenus à cet âge heureux qui ne l'inspire pour nous que du respect, ou que nous sommes assez à plaindre pour avoir une figure qui nous expose à leurs désirs. Mais alors nous étions seuls, je lui répondis selon les principes que je m'étais faits. Et loin que ma réponse lui imposât, il crut que je cherchais moins à lui dérober sa conquête qu'à la lui faire valoir. Il osa même m'assurer que je l'aimerais. Vous imaginez bien que je lui soutins fortement le contraire. Je ne sais avec quelle femme vivait ordinairement cet étourdi. Mais assurément, elle ne l'avait pas accoutumé au respect. Il s'approcha de moi, et me prenant brusquement entre ses bras, il me renversa sur un sofa. Dispensez-moi de grâce du reste d'un récit qui blesserait ma pudeur et qui peut-être troublerait encore mes sens. Qu'il vous suffise de savoir... Non, interrompit Modeste, vous me direz tout.
C'est moins, je le vois, et ne le vois pas sans frémir pour vous, la crainte d'émouvoir vos sens ou de blesser la pudeur qui vous ferme la bouche, que la honte d'avouer que vous avez été trop sensible et ce motif, loin d'être louable, ne saurait être trop blâmé. Je puis, oh, je crois même devoir ajouter à ce que je vous dis, que s'il est vrai que vous craignez que le récit que j'exige de vous ne vous jette dans une émotion dangereuse, vous ne pouvez le supprimer ou l'adoucir sans être coupable. N'est-il donc pour vous d'aucune conséquence d'ignorer ce que peuvent sur vous de certaines idées? Oserez-vous compter sur vous-même quand vous ne serez pas éprouvé? Ainsi donc, ménageant toujours votre âme, vous ignorez toujours quelles sont ses forces. Almaïde, croyez-moi, l'on ne craint jamais assez un danger que l'on ne connaît pas, et l'on ne tombe ordinairement que pour avoir trop compté sur soi-même. Vous ne pouvez donc peser trop sur toutes les circonstances de votre histoire. Ce n'est que par l'effet qu'elles feront aujourd'hui sur vous que vous pourrez apprendre jusqu'où vont les progrès que vous avez faits dans le chemin de la vertu, ou, ce qui est encore plus essentiel, ce qu'il vous reste encore à détruire pour parvenir à cette aversion totale des plaisirs qui seul fait les vertueux. Ce conseil me surprit dans la bouche de Moclès. Je lui connaissais de la droiture et des lumières, et je ne concevais pas ce qui dans cet instant le faisait résonner d'une façon si contraire à ses principes. « Quoi ?» me dis-je avec étonnement. « C'est Moclès, ce sage Moclès, qui conseille à Almaïde de peser sur des détails qui peuvent blesser la pudeur et porter la corruption ?» L'envie que j'avais de m'éclaircir des motifs de Moclès me le fit regarder avec attention, et je lui trouvais tant d'agrément dans les yeux que je commençais à croire que je pourrais bien trouver ma délivrance dans le lieu du monde où j'aurais le moins osé l'attendre. Et pendant que je fondais de si douces espérances, autant sur lui que j'avais de la vertu d'Armaïde et de Moclès que sur le trouble où tous deux commençaient à se mettre, Almaïde continua son histoire. Chapitre 9, où l'on trouvera une grande question à décider. « Je vous obéirai aveuglément, » répondit Almaïde à Moclès. « Je vous ai dit, ce me semble, que ce jeune homme dont je vous parlais m'avait renversé sur un sofa. Je n'étais pas encore revenu de mon étonnement, qui s'y précipita sur moi. Quoique l'excès de ma surprise me permît à peine de lui exprimer ma colère, il la lut aisément dans mes yeux, et voulant se précautionner contre mes cris, il parvint, malgré la résistance, à me fermer la bouche avec le baiser le plus insolent. Oh, il me serait impossible de vous dire combien d'abord j'en fus révolté. Je l'avouerai, pourtant, mon indignation ne fut pas longue. La nature, qui me trahissait, me porta bientôt ce baiser dans le fond du cœur. Il se mêla tout d'un coup à ma colère des mouvements qui me la laissèrent plus agir qu'avec faiblesse. Tous mes sens se soulevèrent. Un feu inconnu se glissa dans toutes mes veines. Je ne sais quel plaisir qui, en le détestant, m'entraînait, remplit insensiblement toute mon âme. Mes cris se convertirent en soupirs et emportés par des mouvements auxquels, malgré ma colère et ma douleur, je ne pouvais plus résister. En gémissant de l'état où je me voyais, je n'avais plus la force de m'en défendre. « Voilà, s'écria Moclès, une terrible situation. Eh bien, continua-t-il en la regardant avec des yeux enflammés. Que vous dirais-je, reprit-elle. Quand je le pouvais, je lui faisais des reproches, mais c'était machinalement. Je crois que je lui parlais, que je le traitais avec tout le mépris qu'il méritait. Je dis que je le crois, car je n'oserais l'assurer. Et à mesure que ce trouble cruel augmentait, je sentais expirer mes forces et ma fureur. Une confusion singulière régnait dans toutes mes idées. Je ne m'étais pourtant pas encore rendu, mais quelle résistance ! Qu'elle était faible ! Et que toute faible qu'elle était, elle me coûtait encore. Oh, je me rappelle, Moclès, ce souvenir, qu'avec horreur, si la honte qu'il me cause me le rend aussi présent que si je gémissais encore entre les bras de cet audacieux. Quel moment pour ma vertu! Je souhaitais, mais avec quels efforts, combien ne souffrais-je pas à le souhaiter, que l'on vînt m'arracher au sort qui me menaçait. Mais en même temps que je formais cette idée, un mouvement contraire qui agissait sur moi avec la dernière violence, et qui cependant me déplaisait moins que le premier, me faisait désirer vivement que rien ne s'opposât à ma défaite. Et en rougissant de ce que je sentais, Je brûlais d'en sentir davantage. Sans imaginer de nouveaux plaisirs, j'en souhaitais. L'ardeur qui me dévorait commençait à devenir un supplice pour moi et à fatiguer mes sens. Quelle que fût l'ivresse dans laquelle j'étais plongé, je n'avais pas encore parvenu à étouffer cette voix importune qui criait au fond de mon cœur et qui, n'ayant pu m'arracher à ma faiblesse, continuait de me la reprocher. Lorsque ce jeune homme, rembarquant sans doute l'impression qu'il faisait sur moi, poussa enfin jusqu'au bout les outrages qu'il me faisait. Mais comment pourrais-je vous exprimer ce dont je rougis encore? Occupé uniquement, autant que mon trouble me le permettait, à me défendre de ses baisers, dont il m'accablait sans cesse, je n'avais point pris d'ailleurs de précaution contre lui. Malgré le cruel état où j'étais, cette nouvelle insulte réveilla ma fureur. Hélas, ce ne fut pas pour longtemps. Je sentais bientôt augmenter mon désordre. Jusqu'aux efforts que je faisais pour échapper à cet audacieux, ou pour le déranger du moins, tout y contribuait, tout achevait de me séduire. Perdu enfin dans des transports inexprimables, dans un ravissement dont il me serait impossible de vous donner l'idée, je tombais sans force et sans mouvement entre les bras du cruel qui me faisait de si sanglants affronts. Quel état! S'écria Moclès, et que j'en crains les suites. Oh, elles ne furent cependant pas telles que vous les imaginez, répondit Almaïde. Au milieu d'une situation dont j'avais d'autant plus à craindre que je n'en craignais plus rien, je ne sais pourquoi mon ennemi suspendit tout à coup sa fureur et ses entreprises. Par un prodige que je n'ai jamais pu concevoir, et que vous ne croiriez peut-être pas, tant il est extraordinaire, dans l'instant où je n'avais plus rien à lui opposer, et lui-même paraissait au comble de l'égarement, ses yeux, dont je ne pouvais soutenir l'éclat et l'impression, changèrent. Une sorte de langueur qui vint y régner en bannit la fureur. Il chancela, et en me pressant dans ses bras avec plus de tendresse et moins de violence qu'auparavant, il devint, juste punition des mots qu'il m'avait faits, aussi faible que je l'étais moi-même. En ce moment, mon trouble commençait à se dissiper, et je fus assez heureuse pour pouvoir jouir de toute l'humiliation de mon ennemi. Et après l'avoir considéré avec tout le plaisir possible et remercié intérieurement Brahma de la protection visible qu'il m'avait accordée, je me relevai avec violence. À mesure que mes sens se calmaient et que mes idées devenaient plus claires, je sentis plus vivement ma honte. 20 fois j'ouvris ma bouche pour charger ce jeune téméraire des reproches qu'il méritait. Mais cette confusion secrète dont j'étais accablé me la ferma toujours. Et après avoir regardé, avec toute l'indignation que méritait l'insolence de son procédé, je le quittai brusquement. J'aimais mieux, à vous dire vrai, garder le silence que d'entrer dans des détails qui m'auraient fait rougir. N'en soyez pas surprise, continua Moclès, et ne soyez pas plus choqué de ce que je vais vous dire, tout extraordinaire qu'il sera dans ma bouche. Je suis désolé que ce jeune téméraire qui vous ménagea si peu n'ait pas eu le temps d'achever son crime. « Oh, Moclès ! » s'écria-t-il, « et pourquoi ?»« Parce que, répondit-il, vous seriez en état de calmer des doutes qui me tourmentent depuis longtemps, que vous venez de me rendre dans toute leur force, et que notre inexpérience réciproque laissera toujours subsister, puisque vous ne pourriez point répondre à mes questions, et qu'il serait trop dangereux pour moi d'interroger sur ce qui m'agite une autre personne que vous. Ma curiosité roule sur des choses d'une nature si étrange pour un homme de mon caractère et de ma profession, qu'à moins de me connaître comme vous faites, on ne manquerait pas de l'attribuer à un motif qui ne me ferait pas honneur.
Oh, il est certain, répondit-elle, que vous pouvez tout me dire sans rien risquer.
C'est cela même, reprit-il, qui me ferait presque désirer que vous fussiez plus instruite, car ayant en moi autant de confiance que j'en ai en vous, sûrement vous ne me cacheriez rien. Quand j'aurais pu douter de votre amitié et de la façon de vous compter sur ma discrétion, la vérité avec laquelle vous venez de me confier jusqu'à vos plus intimes mouvements m'en aurait convaincu.
Bien, sachons toujours ce qui vous occupe, répliqua-t-elle. Peut-être, à force de raisonner, viendrons-nous à bout.
Oh non, interrompit-il, vous ne pourriez me donner que des conjectures. Et ce qui m'occupe est d'une manière à exiger la plus parfaite certitude. Sans vous inquiéter davantage, je vais vous dire ce que c'est, et c'est vous qui jugerez s'il doit m'être indifférent, pensant comme je fais, d'être sur un pareil article dans une si profonde ignorance. D'ailleurs, votre intérêt s'y trouve joint au mien, puisqu'il n'est pas possible que, vertueuse comme vous êtes, vous ne soyez pas tourmentée des mêmes idées que moi.
Vous m'effrayez, lui dit Almaïde. Parlez, je vous en conjure.
Eh bien, lui dit-il, je pense qu'il est possible que nous ayons fort peu de mérite à ne nous être jamais écartés de nos devoirs.
Bon, cela se pourrait, s'écria-t-elle, et d'un air assez fâché de ce que la conversation prenait un tour si sérieux.
Sans doute, reprit-il, et je vais vous en convaincre. Vous n'avez, vous, jamais éprouvé les douceurs de l'amour, car, quelque chose que vous en puissiez croire, il n'est pas douteux que ce qui vous est arrivé avec ce jeune homme ne vous en a donné qu'une idée fort imparfaite. Moi, je l'ai toujours fui.
Est-ce là de quoi nous croire si parfait?
Mais direz-vous, nous avons eu des désirs et nous en avons en triomphé.
Est-ce donc une si grande victoire que celle-là?
Savions-nous ce que nous désirions?
Sommes-nous même bien sûrs d'avoir eu des désirs?
Non.
Notre orgueil nous a trompés. Ce que nous avons pris pour des désirs les plus ardents était sans doute de bien légères tentations. Ce n'est peut-être que par ignorance que nous nous y sommes mépris, plutôt au ciel. Mais s'il est vrai, comme je crains bien, que la seule envie de nous exagérer nos triomphes, ou de croire seulement que nous en remportions, nous est trompé là-dessus. Dans quelle coupable erreur n'avons-nous pas vécu? Nous nous sommes flattés d'être vertueux pendant que nous étions peut-être plus imparfaits que ceux que nous osions blâmer, et que notre vanité nous donnait même un vice de plus qu'à eux.
Non, cela est vrai, dit Almaïde. Vous venez de faire là une affligeante réflexion.
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle me tourmente, répliqua-t-il d'un air triste, et d'autant plus que pour me guérir de mes doutes, je ne vois qu'un moyen, oh, qui tout simple qu'il est, ne laisse pas d'être dangereux.
Voyons toujours, lui demanda-t-elle, comme je suis précisément dans le même cas que vous, j'ai l'intérêt du monde le plus pressant à savoir ce que vous avez pensé.
Ah, il faut vous connaître comme je fais, répondit-il, pour ne pas craindre de vous le dire.
Nous nous croyons vertueux, vous et moi, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne savons réellement ce qui en est, et vous n'en allez pas douter.
En quoi consiste la vertu?
Dans la privation absolue des choses qui flattent le plus les sens. Mais qui peut savoir quelle est la chose qui les flatte le plus?
Celui-là seul qui a joui de toutes.
Et si la jouissance du plaisir peut seul apprendre à le connaître, celui qui ne l'a point éprouvé ne le connaît pas, alors que peut-il donc sacrifier?
Rien, une chimère. Car quel autre nom donner à des désirs qui ne portent que sur une chose qu'on ignore?
Et si, comme cela est décidé, la difficulté du sacrifice en fait seule tout le prix, quel mérite peut avoir celui qui ne sacrifie qu'une idée? Mais après s'être livré au plaisir et s'y être trouvé sensible, y renoncer, s'immoler soi-même, voilà la grande, la seule, la vraie vertu, et celle que, si vous ni moi, ne pouvons nous flatter d'avoir. Je ne le vois que trop, dit Almaïde. Il est certain que nous ne pouvons pas nous en flatter. Nous nous en sommes flattés pourtant, répondit vivement Moclès, qui craignait qu'en laissant à Almaïde le temps de la réflexion, elle ne sentit combien les raisonnements qu'il employait étaient faux. Nous avons causé, osé le croire, et de ce moment nous voilà coupables d'orgueil. Oh, je suis bien aise, continua-t-il, et je vous loue sincèrement de ce que vous sentez, que tant qu'on ne s'est point mis à portée de pouvoir faire une comparaison exacte du vice et de la vertu, l'on ne peut avoir sur l'une et sur l'autre que des idées fausses. D'ailleurs, car ce mal, tout grand qu'il est, n'en est pas le seul, on est sans cesse tourmenté du désir d'apprendre ce que l'on s'obstine à ignorer. L'âme, exercée malgré elle, par ce mouvement de curiosité, on a sûrement plus de négligence sur ses devoirs, en proie à des distractions fréquentes. Elle perd à raisonner, à entrevoir, à suivre, à détailler, à approfondir ce qu'elle a conçu, le temps que, sans cette tourmentante idée qui l'obsède toujours, elle donnerait uniquement à la pratique de la vertu. Si elle savait à quoi s'en tenir sur ce qu'elle souhaite de connaître, elle serait plus tranquille. Elle serait plus parfaite. Il faut donc connaître le vice, soit pour être moins troublé dans l'exercice de la vertu, soit pour être sûr de la sienne. Quoique Almaïde fût dans une situation à ne pouvoir guère saisir que ce qui, en lui démontrant la nécessité du plaisir, la délivrait de la crainte des remords, ce sophisme la fit frissonner. Elle demeura quelques moments interdite, mais l'envie qu'elle avait de s'éclairer sur la volupté ou de s'y perdre encore, l'emportant sur la terreur, elle me parut enfin plus surprise qu'effrayée de ce qu'elle venait d'entendre. Vous croyez donc, lui demanda-t-elle d'une voix tremblante, que nous en serions plus parfaits? « Mais vraiment, répliqua-t-il, je n'en doute pas, car considérez de grâce la position où nous sommes, et jugez s'il en est de plus horrible. »« Mais je ne le vois que trop, dit-elle, elle est réellement épouvantable. »« Premièrement, continua-t-il, nous ne savons pas si nous sommes vertueux, état triste pour des gens qui pensent comme nous. » Ce doute, tout cruel qu'il est, n'est pas le seul malheur qu'entraîne notre situation. Il n'est que trop certain que, content de la privation que nous nous sommes imposée, il y a mille choses plus essentielles, peut-être, sur lesquelles nous nous sommes cru dispensés de nous observer. Par conséquent, à l'ombre d'une vertu qui pourrait bien être qu'imaginaire, nous avons commis des crimes réels ou... ce qui, sans être de la même importance, a cependant des inconvénients remarquables. Nous avons négligé de faire de bonnes actions. Enfin, en nous supposant tels que nous nous sommes crus jusqu'ici, je me défierais encore d'une vertu que nous avons choisie, et je n'imaginerais pas qu'il y eût un grand mérite à l'avoir. Mettez différents fardeaux au choix d'un homme. Il n'est pas douteux que ce sera au plus léger qu'il se chargera. « Je vous entends, » dit-elle en soupirant. « Vous voulez dire que nous avons fait de même. À combien de scrupules ne me livrez-vous pas ? » continua-t-elle en baissant les yeux. « Et comment n'en être pas tourmenté quand le seul moyen que l'on ait pour s'en délivrer en fait lui-même naître tant ?»« Ce moyen, » reprit-il vivement, « est dans le fond moins à craindre qu'il ne le paraît. » Je suppose, et plutôt ciel que je ne supposasse rien, que, fatigué de notre incertitude, sentant enfin qu'il est de notre devoir de nous en tirer, nous voulons connaître le plaisir et juger de ses charmes par nous-mêmes. Quel serait le danger de cette épreuve de ne pouvoir pas nous y attacher quand une fois nous l'aurions connue? Pour des âmes un peu faibles, j'avoue que cela serait à risquer, mais il me semble que, sans trop de présomption, nous pouvons un peu compter sur nous-mêmes. Si, comme à nous rien cacher, je le présume, ce plaisir est moins séduisant qu'on ne le dit, ce ne sera pas la peine de nous livrer à des choses à la privation desquelles, flatteuses ou non, l'on a attaché de la gloire. Mais si, au contraire, elles peuvent porter dans l'âme un trouble aussi grand qu'on l'assure, nous nous en priverons avec d'autant plus de joie que nous serons sûrs qu'il y a beaucoup de vertu à le faire. Ce raisonnement que sans doute Almaïde aurait détesté, si elle avait été plus à elle-même, fit sur son âme, qui n'attendait plus pour succomber que l'apparence d'une excuse, tout l'effet que le malheureux Moclès s'en était promis. Après l'avoir regardé quelque temps avec des yeux incertains et troublés, « Oui, je sens comme vous, lui dit-elle, la nécessité absolue de cette épreuve, mais avec qui la pourrions-nous faire en sûreté ?» À ces mots, elle se pencha languissamment sur Moclès, qui peu à peu s'était approché d'elle, au point qu'en ce moment il la tenait dans ses bras. « Oh, je crois, lui répondit-il, que si nous la voulons hasarder, ce ne pourrait être qu'entre nous deux. Nous sommes sûrs l'un de l'autre, et comme nous ne pouvons point douter que ce ne soit pas une plus grande recherche de la vertu que nous déterminons à des actions qui semblent la blesser, nous sommes certains de ne nous pas faire une habitude d'un mouvement de curiosité qui ne part que d'un si bon principe. De quelque façon que ce puisse être, enfin, nous y gagnerons, puisqu'au moins le souvenir de notre chute nous garantira de l'orgueil. » Quoique Almaïde ne répondît rien, elle paraissait encore incertaine. Moclès, qui voulait à quelque prix que ce fût la déterminer, lui proposa, pour achever de la vaincre, de ne tenter cette épreuve que par degrés, afin, disait-il, que s'ils trouvaient dans leurs premiers essais assez de volupté pour fixer leurs doutes, ils n'allassent pas plus loin. Elle y consentit. Bientôt ils s'égarèrent, et irritant leur désir par des choses qui, quoiqu'elles fussent faites sans grâce et avec maladresse, n'en prenaient pas moins d'empire sur leur sens, ils perdirent de vue le marché qu'ils venaient de faire. Tous deux, trouvant trop ou trop peu dans ce qu'ils sentaient, jugèrent à propos de poursuivre ou ne purent s'arrêter et... « Ah ! Tout d'un coup, vous devint autre chose !» interrompit le sultan. « Non, sire !» répondit Amariseille. Ben, « Je comprends rien à cela, » reprit Chambram. « Et alors, je sais bien pourquoi. C'est que cela est incompréhensible, car il n'est pas douteux qu'il dit tout ce que votre brahma demandait. Ben, je le crus d'abord, comme votre invincible majesté, » repartit Amariseille, « mais il fallait pourtant qu'au moins l'un des deux en eût imposé à l'autre. Ah, » ah, j'imagine que vous fûtes bien fâché, répliqua le sultan. Et dites-moi, lequel des deux vous défia de vous le plus? Ben, le récit d'Almaïde, répondit Amariseille, me donna sur elle de grands soupçons, et l'ignorance qu'elle affecta quand elle se rendit à Moclès, quoiqu'elle fût extrême, ne m'empêcha pas de croire qu'en lui faisant le récit de son aventure, elle avait supprimé la circonstance que je me faisais rester dans ma prison. « Voilà bien les femmes !» s'écria le sultan. « Ah oui, votre réflexion est juste. Eh bien, je n'en ai rien dit, mais j'aurais pensé qu'elle ne disait pas tout. Si je m'en étais vanté, il y a ici des gens qui m'auraient accusé de faire l'esprit fort. Allez, allez, soyez-en certains. Ce fut elle qui empêcha que vous ne fussiez délivré.
La chose est toute probable qu'elle est, répondit Amanzai, souffre des difficultés. Moclès, pour un homme jusqu'alors si irréprochable, me parut avoir bien de l'expérience.
Ah, ceci change la thèse, dit le sultan. Car, ah oui, on le voit bien, c'était lui.
Mais accordez-nous donc, dit la sultane. C'était elle, c'était lui, mais pourquoi s'en se tourmenter tant, ne pas penser que tous deux étaient de mauvaise foi?
Vous avez raison, répliqua le sultan. À la rigueur, cela se pourrait. Il me semble pourtant qu'il serait plus plaisant que ce fût l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aimerais mieux. Voyons toujours. Alors, que dire-t-il après? Ce n'est pas là ce qui m'intéresse le moins.
Moclès fut le premier qui revint de son égarement. Il me parut d'abord comme étonné de se trouver entre les bras d'Almaïde, et sa raison reprenant peu à peu son empire, à l'étonnement succéda l'horreur. Il semblait ne pouvoir pas comprendre ce qu'il voyait. Il cherchait à en douter, à se flatter qu'un songe seul lui offrait de si cruels objets. Trop sûr enfin de son malheur, il leva douloureusement les yeux sur lui-même et se retraçant tout ce qu'il avait fait pour séduire Almaïde, combien sa criminelle passion l'avait aveuglé. Avec quel art il avait corrompu par degrés, il tomba dans la douleur la plus amère. Almaïde ouvrit enfin les yeux, mais encore troublée, ne distinguant pas les objets aussi bien que Moclès, elle fut d'abord plus confuse qu'affligée. Soit enfin que le désespoir où elle le voyait lui fit sentir sa chute, soit que d'elle-même elle connut tout ce qu'elle avait à se reprocher. « Oh, Moclès ! » s'écria-t-elle en pleurant, « vous m'avez perdu !»
Moclès en convint. Il s'accusa de l'avoir séduite, la plaignit, tâcha de la consoler et lui parla en homme vraiment humilié sur le danger qu'il y a compté trop sur soi-même. Enfin, après lui avoir dit tout ce que peuvent inspirer la plus vive douleur et le repentir le plus sincère, sans oser la regarder, il prit congé d'elle pour toujours. Almaïde, restée seule, n'en fut ni moins honteuse ni plus tranquille. Elle passa toute la nuit à pleurer et à se reprocher tout jusqu'au reproche qu'elle avait fait à Moclès et dans lequel alors elle trouvait trop de vanité. Moclès, dès le lendemain, prit le parti de la retraite la plus austère.
« Voilà qui achève de me décider !» interrompit le sultan. « Ce n'était pas lui !»
Et Almaïde, continua Anzaï, toujours inconsolable, quelques jours après, suivit son exemple.
« Oh, cela me dérange !» reprit le sultan.
Il fallait donc alors que ce ne fût pas elle.
Jamais question plus difficile à décider ne s'était offerte à mon esprit.
Je la laisse à résoudre qu'il pourra.